Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui vous prémunir, mes frères, contre une rumeur qui court de ci, de là. Cette rumeur consiste à dénigrer la prière de demande. Certains considèrent qu'elle ne serait pas une prière digne de ce nom parce qu'elle ferait de Dieu une sorte de vache à lait. Passez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on voit la relation du fidèle à Dieu. C'est souvent ce que pensent bon nombre de non-croyants qui reprochent aux fidèles de n'aller à l'église que pour se tourner vers Dieu en vue d'obtenir de lui quelques bénéfices. Mais il n'y a pas que ces personnes qui se tiennent loin de l'église qui considèrent ainsi la prière de demande. Il y a d'autres, moins radicaux, qui croient en Dieu, ceux-là, et qui prient Dieu, qui prétendent que la prière de demande, pour légitime qu'elle soit, est la forme la moins noble de prière. À la racine de ces reproches qui sont adressés à la prière de demande, on trouve je ne sais quelle morale complètement idéaliste, complètement éthérée, aux yeux de laquelle ne serait bon que ce qui est absolument désintéressé. C'est la même morale qui, dans l'ordre de l'amour, explique que l'idéal de l'amour, c'est de ne jamais penser à soi lorsqu'on aime l'autre, de n'y trouver finalement aucun intérêt et d'être comme aboli au seul profit de l'autre. Cette morale n'a rien de naturel, rien de conforme à ce que Dieu veut pour nous. Avouons que nous autres chrétiens ne sommes pas toujours totalement exempts de cette conviction à l'égard de la prière de demande. Nous avons parfois honte de demander. Ou lorsque nous demandons trop, nous pensons qu'il faudrait passer à d'autres accords de ce clavier de la prière pour plaire davantage à Dieu. Il faudrait passer à la louange, il faudrait passer à la prière d'expiation, parce que trop demander à Dieu, c'est le lasser, c'est le raser, ce pauvre bon Dieu qu'on représente barbu. Eh bien, laissez-moi vous dire donc que cette posture est une véritable sornette, qu'elle est même un cancer de l'âme. Elle est très généreuse en apparence, mais c'est une sornette quand même. J'en veux pour preuve en premier lieu les paroles du Christ lui-même. Parce qu'en fait, de prière, c'est lui qui nous enseigne et lui seul. Et que dit Jésus quand les disciples viennent lui poser cette fameuse question « Maître, apprenez-nous à prier ?» Jésus leur répond par quoi ? Par le Notre Père. Et cette prière du Pater, qu'est-ce qu'elle contient ? La seule que Jésus ait jamais enseignée explicitement à ses apôtres. Qu'est-ce qu'elle contient ? Cette demande, rien d'autre. Cette demande. La plénitude, cette évidemment n'est pas un chiffre anodin, la plénitude, la perfection de la prière réside dans la perfection de la demande, une plénitude de demande. Si cela ne suffisait pas à établir la noblesse de la prière de demande, qu'on se reporte aux innombrables lieux de l'Évangile où le Seigneur exhorte ses auditeurs en des termes du type « Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, ne vous lassez pas, priez sans cesse », sous-entendu cette prière de demande qui vient si souvent être adressé à Jésus. Combien de fois le Seigneur exécute les personnes, juifs pratiquants, juifs de diverses obédiences, païens, qui viennent frapper à la porte de son cœur. Le Seigneur ne cesse de prendre en considération ses prières de demande. Par trois fois dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons cette même instruction, demander. Comme si ses apôtres avaient le crâne un peu dur et qu'ils ne comprenaient pas qu'il était parfaitement noble de demander et que c'était la posture que Dieu le Père attendait de nous. Pour un passage qui est aussi bref que l'évangile d'aujourd'hui, c'est dire l'importance, si Jésus répète trois fois ce terme « demander », c'est dire l'importance que le Christ et son Père accordent à cette forme de prière. D'autant que la triple invitation « demander » est introduite, comme à chaque fois que Jésus a quelque chose de très important à nous dire, par cette incipit solennelle « Amen, Amen, je vous le déclare, Amen, Amen, je vous le dis », et la suite « demander, demander, demander ». Voyez que Jésus veut que nous demandions. Alors, laissons tomber les scrupules ou les faux scrupules que nous avons à ne pas accéder trop souvent à la prière de demande pour ne pas excéder le bon Dieu. Saint Thomas d'Aquin, dans sa fameuse somme théologique, a élaboré un véritable petit traité de la prière, qui est un joyau. C'est, vous le savez peut-être, par des questions successives que saint Thomas développe son propos, et chacune de ces questions est subdivisée en articles. Il se trouve que la question qui concerne la prière est composée de 17 articles. C'est la plus longue des questions de la somme théologique. C'est-à-dire l'importance que saint Thomas accorde à une théologie de la prière. Or, quand il parle de la prière, il est sans cesse sous-entendu ou carrément explicite sous la plume de saint Thomas d'Aquin qu'il s'agit d'une prière de demande. La prière de demande, et pour saint Thomas, dans cette question fondamentale à propos de la prière, elle est la prière par excellence. Alors revenons au texte de la messe d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, parce qu'ils contiennent des enseignements très précieux au sujet de cette fameuse prière de la demande. Enfin, prière de demande. Il est intéressant de noter tout d'abord que quand le Seigneur invite à formuler leur demande au Père éternel, il ne restreint pas du tout le spectre de ces demandes. C'est-à-dire qu'il ne limite pas à quelques objets seulement cette demande qu'il faut faire au Père. En d'autres termes, cette absence de précision implique qu'on peut tout demander au Père éternel. Telle est la logique de Dieu, bien sûr, cette logique de surabondance qui correspond à ce qu'il est profondément, notre Dieu est bonté, notre Dieu est amour. Alors, serait-il ne pas prendre en considération toutes les demandes et les moindres demandes de ses enfants? Il est certain que non. Spontanément, quand Jésus nous apprend que nous pouvons tout demander, on pourrait, c'est vrai, comme les grands enfants que nous sommes trop souvent, nous croire autorisés à considérer la vie, et notamment la vie de prière, comme une sorte de jacadie. Vous avez cette partie de jacadie où l'enfant qui prononce ces mots jacadie obtient de ceux qui sont en face de lui exactement ce qu'il veut. Évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça que Jésus nous demande de concevoir la prière de demande. Lorsqu'il dit qu'on peut tout demander, il ne s'agit pas de nous transformer en jacadie. À tenir Dieu ainsi pour un distributeur automatique de cadeaux, on ne peut qu'être frustré lorsqu'on découvre, lorsqu'on réalise qu'il n'exauce pas nos quatre volontés. Pas plus qu'un père aimant n'exauce les quatre volontés de son caractériel d'enfant. Voyez, il faut le reconnaître humblement, mes frères, nous peinons à cause du péché qui vient obscurcir notre intelligence, qui vient alourdir notre cœur, nous peinons à comprendre les paroles de Jésus lorsqu'il nous dit que nous pouvons tout demander, que nous devons tout demander au Père. Nous ne parvenons pas vraiment à savoir que demander et comment. C'est du reste ce que nous dit l'apôtre saint Paul aux Romains dans son chapitre 8e, il nous dit « Nous ne savons pas comment il faut prier ». Que faire alors? Saint Paul répond dans la même phrase, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Vous me direz, l'abbé vous êtes gentil, saint Paul également, à la différence que saint Paul, nous pouvons le vénérer publiquement, mais dire que lorsque nous ne savons pas comment prier, il faut se tourner vers l'Esprit Saint, qui vient au secours de notre faiblesse, est quand même un peu court. Parce que concrètement, on ne voit pas très bien comment il faut prier, comment il faut adresser nos demandes à Dieu. Alors qu'on se rassure, le Saint-Esprit a l'habitude de donner des jalons. Il a l'habitude, devant les caboches un peu étroites que nous sommes, de rappeler les choses assez clairement. Et où s'exprime-t-il ce Saint-Esprit? Eh bien, dans l'Écriture sainte en premier lieu. Et dans l'Écriture sainte, que nous dit-il? Eh bien, il nous donne des consignes, et dans l'Évangile d'aujourd'hui, et dans l'Épître d'aujourd'hui. Je crois qu'il nous donne en réalité deux conditions fondamentales pour que le Père nous exauce, enfin en amont, pour que notre prière de demande soit conforme au cœur de Dieu. Il y a une première condition que donne Jésus lui-même, mais c'est son esprit qui parle par la bouche de Jésus. Jésus nous dit, le Père vous exaucera parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis venu d'auprès de Dieu. La condition pour que notre demande soit audible de la part du Père éternel, c'est que nous croyions en Jésus. Alors vous me direz, évidemment que nous croyons en Jésus, sinon nous ne demanderions pas par l'intercession du Christ à son Père. Oui, mais lorsque Jésus dit qu'il faut croire en lui, c'est qu'il faut conformer toute notre existence à ce qu'il est et à ce qu'il demande de nous. La vie de la foi, vous le savez, et vous ne le savez que trop, c'est une vie toujours plus profonde dans l'intimité du Seigneur Jésus. Plus nous entrerons dans cette union au Christ, plus les demandes que nous formulerons seront exaucées. Pourquoi? Parce que du Père et du Fils, c'est tout un, et que, passant par le Fils, nous aurons des demandes parfaitement conformes à ce que veut le Père. Et donc il dit qu'il faut croire en lui. Et il dit également qu'il faut l'aimer, parce que vous avez cru en moi, vous avez cru que je suis... vous m'avez aimé, pardon, amour donc, et vous avez cru que je suis venu d'auprès de Dieu. Oui, enfin, amour et foi. Bref, vous comprenez, dans la phrase du Seigneur Jésus, il y a les deux. Eh bien, je vous ai parlé de la foi en Jésus, c'est-à-dire de cette vie d'intimité avec le Seigneur Jésus, cet abandon à sa parole, et également l'amour du Seigneur Jésus qui est nécessaire. Mais vous me direz, nous aimons Jésus, mais c'est évident, nous ne serions pas là à la messe le dimanche, dans un monde totalement déchristianisé, alors qu'on a mieux à faire. Voilà, nous pourrions être à Euro Disney, ou je ne sais pas, de publicité, c'est vrai, dans les sermons. Mais bref, vous me direz, voilà, nous aimons Jésus, mais aimer Jésus, et là je passe à l'épître, aimer Jésus, ça veut dire mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Je ne sais plus quel auteur dit, cité très souvent par l'abbé de Tannoirne, peut-être même lorsqu'il venait prêcher ici, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, à l'égard du Seigneur Jésus, c'est exactement ça. C'est ce que nous dit Saint Jacques dans son épître. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous abuser. Celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté, celui-là seul, trouvera le bonheur. Autrement dit, il est trop simple de dire « Seigneur, je crois en vous, j'adhère à vous, je suis d'accord avec vous ». Il faut encore aimer Jésus, ça veut dire mettre dans notre vie, dans les moindres détails de notre vie, la loi du Seigneur en application. Ce n'est qu'à cette condition, mes frères, que nos demandes pourront être conformes au cœur de Jésus et donc au cœur de son Père. Ce n'est que dans ces conditions alors que le Père nous exaucera. Il faut, dans notre prière de demande, ne vouloir faire qu'un avec Jésus et avec la Trinité tout entière. C'est cela le secret de la prière. Demandez en mon nom, nous dit Jésus, en mon nom. Toute autre demande n'est pas entendue par le Père. Il n'y a pas d'autre nom sur cette terre par lequel nous devions être sauvés que celui de Jésus, ce que dit Saint Pierre aux Actes des Apôtres. Nous avons, je crois, trop peu cette conviction qu'il nous faut à la fois croire en Jésus, aimer Jésus, appliquer ce qu'il nous demande pour enfin obtenir l'oreille du Père éternel. Regardez dans la prière du Pater, qui est la seule prière que Jésus nous ait apprise, je vous l'ai dit un instant, mais vous le saviez déjà, les trois premières demandes du Pater, ce qui vient en premier lieu, ne concernent pas l'homme qui prie lui-même, mais concernent le Créateur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne advienne, que votre volonté soit faite. Je me tourne d'abord vers vous, Seigneur, je vais être uni à vous. Et ensuite, je pense à moi. Dans la deuxième partie du Pater, les quatre autres demandes, quatre, il y en a trois seulement pour Dieu et quatre pour moi. Vous voyez que Dieu est large. Eh bien, alors, je serai exaucé parce que j'ai d'abord pensé à Dieu, j'ai pensé à son règne. Jésus nous dit encore ailleurs dans l'Écriture, cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire chercher à être des membres vivants du royaume de Dieu, ce qui est possible par le baptême, la vie sacramentelle et la charité concrète exercée à l'égard de nos frères. Alors, si vous cherchez le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par surcroît. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout quitté? Vous connaissez parfaitement cette formule, parce que ça nous intéresse au premier chef. Et vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il dit ça aux apôtres. Et ailleurs encore, celui qui aura quitté père, mère, enfant, etc., c'est-à-dire qui n'aura pas d'abord fait exception de ses relations humaines ou de ses biens temporels, qui aura accepté de tout m'abandonner, de tout me remettre, alors il recevra au centuple. Regardez le livre de Job. Job, après un temps de souffrance, après avoir été désemparé de ses biens, mais pas seulement de ses biens, de ses proches, de ceux qu'il aime, et après avoir été touché par les ulcères malins, après avoir enduré les reproches de ses pseudo-amis, Job, avec une confiance inébranlable, est restitué dans ses biens, et il est restitué au septuple dans ses biens. C'est vous dire donc, mes amis, qu'en acceptant de suivre Dieu inconditionnellement dans la personne de son Fils, en croyant ce qu'il nous dit, en aimant ce qu'il nous fait aimer, c'est-à-dire lui, nos frères, nous ne pouvons pas ne pas avoir un pouvoir absolu sur le cœur de Dieu. J'en veux pour preuve la Vierge Marie. La Vierge Marie est victorieuse de son Fils en plusieurs occurrences de l'Écriture. Notamment, j'en parle souvent parce que, je ne sais pas, ce nom sonne doucement à mes oreilles, Cana. Et oui, la Vierge Marie à Cana est victorieuse de son Fils. Parce qu'elle est tout à fait unie à lui, parce qu'elle est en recherche du royaume de Dieu et de la volonté, de l'accomplissement de la volonté de Dieu, parfaitement unie à lui, elle demande ce qu'elle veut et elle l'obtient. Il faut dire que ce qu'elle demande ne peut être que conforme au cœur de ce Dieu auquel elle est étroitement unie. Vous me direz peut-être que tout cela est de peu de consolation parce que vous demandez si souvent au Père et que l'on ne vous exauce pas. Dites-vous alors, avec saint Thomas, que j'ai cité tout à l'heure, si vous avez le courage d'aller scruter sa question qui concerne la prière, c'est disponible en ligne sur Internet par exemple, Somme théologique, saint Thomas d'Aquin, prière, paf, et vous tomberez sur ce petit enseignement de saint Thomas, eh bien vous vous direz avec lui, et en réalité vous vous direz avec l'hémorroïs, vous vous direz avec cette femme qui vient faire le siège du juge, de nuit, le juge ne veut pas lui ouvrir, il finit par l'exaucer. Vous vous direz avec Job que si le Seigneur ne vous exécute pas tout de suite, n'exécute pas tout de suite vos demandes, c'est sans doute qu'il attend une purification de vous. C'est sans doute qu'il a un plan pour vous. Je sais bien que tout cela est de peu de consolation lorsqu'on est dans l'épreuve, mais sauf à faire du Seigneur un menteur, on est obligé de reconnaître que c'est la logique qui prévaut en permanence. Et Dieu qui nous aime tant, qui livre son Fils sur la croix pour nous, certainement par ce moyen et par ce moyen seul nous refait entièrement et rend enfin notre prière ce que, fait enfin de notre prière ce qu'elle doit être. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.